je vais parler ce matin de la révélation. La révélation est la communication de Dieu avec ses enfants. Elle peut se produire de nombreuses façons. Certains prophètes, comme Moïse et Joseph Smith, ont parlé avec Dieu face à face. Certaines personnes ont eu une communication personnelle avec des anges. D'autres révélations sont venues, comme l'a décrit James E. Talmage, par les songes du sommeil ou par les visions de l'esprit. Dans ses formes les plus familières, la révélation ou l'inspiration vient au moyen de mots ou de pensées communiquées à l'esprit, par l'illumination soudaine, par des sentiments positifs ou négatifs sur les plans d'action proposés, ou même par des performances inspirantes. Comme l'a déclaré Boyd K. Packer, l'inspiration vient davantage sous la forme d'un sentiment que sous la forme d'un son. En supposant que vous connaissez ces différentes formes de révélation ou d'inspiration, j'ai choisi de discuter de ce sujet en fonction d'une classification différente, l'objectif de la communication. Je peux identifier 8 objectifs différents servis par la communication de Dieu. 1. Témoigner. 2. Prophétiser. 3. Réconforter. 4. Édifier. 5. Informer. 6. Retenir. 7. Confirmer. Et 8. Inciter. Je décrirai chacun de ces éléments dans cet ordre en donnant des exemples. Mon but en suggérant cette classification et en donnant ces exemples est de persuader chacun de vous de rechercher sa propre expérience et de conclure que vous avez déjà reçu des révélations et que vous pouvez recevoir plus de révélations parce que la communication de Dieu aux hommes et aux femmes est une réalité. Lorenzo Snow a déclaré: c'est la bénédiction grandiose de chaque saint et dernier jour. Nous avons le droit de recevoir les manifestations de l'Esprit chaque jour de notre vie. Harold Bailey a enseigné: chaque homme a le privilège d'exercer ses dons et ses privilèges dans la conduite de ses propres affaires, dans l'éducation de ses enfants, dans la voie qu'il devrait suivre, dans la gestion de ses affaires, dans tout ce qu'il fait. C'est son droit d'apprécier l'Esprit des révélations et d'inspiration pour faire ce qui est juste, pour être sage et prudent, juste et bon dans tout ce qu'il fait. Fin de citation. Alors que je passe en revue les 8 objectifs suivants de la révélation, j'espère que vous reconnaîtrez la mesure dans laquelle vous avez déjà reçu de la révélation ou de l'inspiration, et que vous déciderez de cultiver ce don spirituel pour une utilisation plus fréquente à l'avenir. Numéro 1. Le témoignage du Saint-Esprit que Jésus est le Christ et que l'Évangile est vrai est une révélation de Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre a affirmé que Jésus-Christ était le Fils du Dieu vivant, le Sauveur l'a appelé béni, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cette précieuse révélation peut faire partie de l'expérience personnelle de tous ceux qui recherchent la vérité, et, une fois reçu, devient une étoile polaire pour les guider dans toutes les activités de la vie. 2. La prophétie est un autre objectif ou fonction de la révélation. S'exprimant sous l'influence du Saint-Esprit et dans les limites de son intendance, une personne peut être inspirée à prédire ce qui se passera à l'avenir. C'est la fonction du prophète voyant et révélateur qui prophétise pour l'Église, comme Joseph Smith a prophétisé de la guerre de sécession et prédit que les saints deviendraient un peuple puissant dans les montagnes rocheuses. La prophétie fait partie de l'appel d'un patriarche. Chacun de nous a le privilège de recevoir une révélation prophétique éclairant les événements futurs de notre vie, comme un appel de l'Église que nous allons recevoir. Pour citer un autre exemple, après la naissance de notre 5e enfant, ma femme et moi n'avons plus eu d'enfants. Après plus de 10 ans, nous avons conclu que notre famille ne serait pas plus grande, ce qui nous a apporté du chagrin. Puis un jour, alors que ma femme était dans le temple, l'Esprit lui a murmuré qu'elle aurait un autre enfant. Cette révélation prophétique s'est accomplie un an et demi plus tard avec la naissance de notre sixième enfant, que nous avions attendu pendant 13 ans. Un troisième objectif de la révélation est de donner du réconfort. Le Seigneur répond aux supplications de Joseph Smith, le prophète dans la prison de Liberty. Après de nombreux mois dans des conditions déplorables, il a crié dans l'agonie et la solitude, suppliant le Seigneur de se souvenir des saints persécutés. La réponse réconfortante est venue. « Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Tu triompheras de tous tes ennemis. » Dans cette même révélation, le Seigneur a déclaré, « Peu importe les tragédies ou les injustices qui devraient frapper le prophète, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. » Chacun de nous connaît d'autres exemples de révélations de réconfort. Certains ont été réconfortés par des visions d'êtres chers décédés ou par le sentiment de leur présence. La veuve d'un bon ami m'a raconté une expérience où elle avait ressenti la présence de son mari défunt, lui donnant l'assurance de son amour et de son souci pour elle. D'autres ont été réconfortés en s'adaptant à la perte d'un emploi ou d'un avantage commercial ou même d'un mariage. Une révélation de réconfort peut aussi venir en relation avec une bénédiction de la prêtrise, soit à partir des paroles prononcées, soit à partir du sentiment communiqué en relation avec la bénédiction. Un autre type de révélation réconfortante est l'assurance reçue qu'un péché a été pardonné. Après avoir prié avec ferveur pendant toute une journée et toute une nuit, un prophète du Livre de Mormon a écrit qu'il avait entendu une voix qui a dit « Tes péchés te sont pardonnés et tu seras béni ». Alors, a écrit Enos, « Ma culpabilité était balayée ». Cette assurance, qui vient quand une personne a accompli toutes les étapes du repentir, donne l'assurance que le prix a été payé, que Dieu a entendu le pécheur repentant et que ses péchés sont pardonnés. Alma a décrit cet instant comme le moment où elle a cessé d'être déchirée par le souvenir de ses péchés. Et oh, quelle joie et quelle lumière merveilleuse je vis! Oui, mon âme était remplie de joie. Il ne peut rien y avoir d'aussi raffiné ni d'aussi doux que ma joie. Numéro 4. Étroitement lié au sentiment de réconfort est le quatrième objectif ou fonction de la révélation, c'est-à-dire l'édification. À un moment ou à un autre de notre vie, chacun de nous a besoin d'édification pour sortir d'une dépression, d'un sentiment d'appréhension ou d'insuffisance, ou simplement d'un plateau de médiocrité spirituelle. Parce qu'il édifie nos esprits et nous aide à résister au mal et à rechercher le bien, je crois que le sentiment d'édification qui est communiqué par la lecture des Écritures ou par la jouissance saine de la musique, de l'art ou de la littérature est un objectif distinct de la révélation. Le cinquième objectif de la révélation est d'informer. Cela peut consister en une inspiration qui donne à une personne les mots pour parler à une occasion particulière, comme dans les bénédictions prononcées par un patriarche ou dans des sermons ou d'autres mots prononcés sous l'influence du Saint-Esprit. Le Seigneur a ordonné à Joseph Smith et Sidney Rigdon de lever la voix et de dire les pensées qu'ils mettraient dans leur cœur. Car ce que vous devrez dire vous sera donné sur l'heure, oui, au moment même. Dans certaines occasions sacrées, des informations ont été données par des conversations en face à face avec des personnages célestes, comme dans les visions relatées dans les Écritures anciennes et modernes. Dans d'autres circonstances, l'information nécessaire est communiquée par les doux chuchotements de l'esprit. Un enfant perd un bien précieux, prie pour de l'aide et est inspiré à le trouver. Un adulte a un problème au travail, à la maison, dans la recherche généalogique, prie et est conduit à l'information nécessaire pour le résoudre. Un dirigeant de l'Église prie pour savoir qui le Seigneur voudrait qu'il choisisse pour remplir un appel et l'Esprit murmure un nom. Dans tous ces exemples, familiers à chacun de nous, le Saint-Esprit agit dans son rôle comme enseignant et révélateur, communiquant des informations et des vérités pour l'édification et la direction du destinataire. La révélation de Dieu accomplit les cinq objectifs suivants. Témoigner, prophétiser, réconforter, édifier et informer. Je n'en ai parlé que brièvement, donnant des exemples principalement tirés des Écritures. Je parlerai plus longuement des trois autres objectifs de la révélation, en donnant des exemples tirés de mes expériences personnelles. Le sixième type ou objectif de la révélation est de nous empêcher de faire quelque chose. Ainsi, au milieu d'un grand sermon expliquant la puissance du Saint-Esprit, Néphée a déclaré soudainement « Et maintenant, je ne puis en dire plus. L'Esprit arrête mon discours. » La révélation qui retient est l'une des formes les plus courantes de la révélation. Cela vient souvent par surprise lorsque nous n'avons pas demandé de révélation ou de conseil sur un sujet particulier. Mais si nous gardons les commandements de Dieu et vivons en harmonie avec son esprit, une force qui nous retient nous éloignera des choses que nous ne devrions pas faire. Une de mes premières expériences où l'esprit m'a retenu est venue peu après avoir été appelé comme conseiller dans une présidence de pieux à Chicago. Lors de l'une de nos premières réunions de présidence, notre président de pieux a fait une proposition que notre nouveau centre de pieux soit construit dans un endroit particulier. J'ai immédiatement vu 4 ou 5 bonnes raisons pour lesquelles c'était le mauvais endroit. Lorsqu'on m'a demandé mon conseil, je me suis opposé à la proposition en donnant chacun de ces motifs. Le président de pieux a sagement proposé que chacun de nous examine la question dans la prière pour notre semaine et que nous en discutions davantage lors de notre prochaine réunion. Presque de manière superficielle, j'ai prié à propos du sujet et j'ai immédiatement reçu une forte impression que j'avais tort, que je faisais obstacle à la volonté du Seigneur et que je devais cesser de m'opposer à elle. Inutile de dire que j'ai été retenu et que j'ai rapidement donné mon approbation à la construction proposée. Incidemment, la sagesse de construire le centre de pieux à cet endroit était bientôt évidente, même pour moi. Mes raisons contraires se sont avérées être à courte vue, et j'étais bientôt reconnaissant d'avoir été retenu de m'y fier. Il y a plusieurs années, j'ai pris des stylos à socle dans mon bureau à BYU pour signer une feuille qui avait été préparée pour ma signature, chose que je faisais au moins une douzaine de fois par jour. Ce document engageait l'université à adopter une ligne de conduite particulière que nous avions décidé de suivre. Tout le travail du personnel avait été fait et tout semblait être en ordre. Mais alors que je signais le document, j'étais rempli de pensées négatives et de craintes à tel point que je l'ai mis de côté et demandé que toute la question soit examinée à nouveau. Elle a été, et en quelques jours, des faits supplémentaires sont apparus qui ont montré que la ligne de conduite proposée aurait causé à l'université de graves problèmes à l'avenir. À une autre occasion, l'esprit est venu à mon aide alors que je modifiais un recueil de cas sur un sujet juridique. Un recueil de cas se compose de plusieurs centaines d'avis de tribunaux, ainsi que de documents explicatifs et de textes rédigés par l'éditeur. Mon assistant et moi avions terminé presque tout le travail sur le livre, y compris les recherches nécessaires pour s'assurer que ces avis de la Cour n'avaient pas été renversés ou annulés. Juste avant de l'envoyer à l'éditeur, je feuilletais le manuscrit et un avis de tribunal particulier a attiré mon attention. En le regardant, j'ai eu un sentiment qui m'a mis profondément mal à l'aise. J'ai demandé à mon assistant de vérifier à nouveau cette opinion pour voir si tout était en ordre. Il l'a fait et m'a confirmé qu'il n'y avait aucun problème. Dans une vérification ultérieure du manuscrit terminé, je me suis de nouveau arrêté à ce cas, encore une fois avec un grand sentiment de malaise. Cette fois-ci, je suis allé à la bibliothèque juridique moi-même. Là, dans certaines publications nouvellement reçues, j'ai découvert que cette affaire venait d'être infirmée en appel. Si cette opinion avait été publiée dans mon recueil de cas, cela aurait été un grave embarras professionnel. J'ai été sauvé par le pouvoir de retenue de la révélation. Septième. Une manière courante de rechercher la révélation est de proposer un plan d'action particulier et puis prier pour l'inspiration qui la confirmera. Le Seigneur a expliqué le type de révélation confirmant quand Oliver Cowdery a échoué dans ses efforts pour traduire le livre de Mormon. « Voici, tu n'as pas compris. Tu as pensé que je te le donnerais, alors que ton seul souci était de me le demander. » Mais voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors tu dois me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. De même, le prophète d'Alma compare la parole de Dieu à une semence et dit aux personnes qui étudient l'Évangile qu'ils s'y donnent de la place pour que la semence soit plantée dans leur cœur. La semence agrandira leur âme et éclairera leur compréhension et commencera à être délicieuse pour eux. Ce sentiment est la révélation du Saint-Esprit confirmant la véracité de la parole. Lorsqu'il a parlé sur le campus de BYU il y a quelques années sur le sujet « le libre arbitre ou l'inspiration », Bruce Armconkey a souligné notre responsabilité de faire tout ce que nous pouvons avant de rechercher une révélation. Il a donné un exemple très personnel. Quand il a entrepris de choisir une compagne pour l'éternité, il n'est pas allé vers le Seigneur et lui a demandé qui il devrait épouser. « Je suis sorti et j'ai trouvé la fille que je voulais », a-t-il dit. « Elle me convenait, il semblait juste, comme si cela devait être le cas. » Alors, tout ce que j'ai fait, c'est prier le Seigneur et demander des conseils et des directives en lien avec la décision que j'avais prise. » Fin de citation. Mais Conquis a résumé son conseil sur l'équilibre entre le libre arbitre et l'inspiration dans les phrases suivantes. On s'attend à ce que nous utilisions les dons, les talents et les capacités, le sens, le jugement et le libre arbitre dont nous sommes dotés. Implicite en demandant avec foi est la condition préalable que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre le but que nous poursuivons. On s'attend à ce que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir et ensuite rechercher une réponse du Seigneur. Un sceau qui confirme que nous sommes arrivés à la bonne conclusion. Fin de citation. En tant que représentant régional, j'ai eu le privilège de travailler avec 4 membres différents du Conseil des 12 et avec d'autres autorités générales alors que je cherchais des révélations en lien avec l'appel des présidents de Pieux. Tous ont procédé de la même manière. Ils ont tenu des entretiens avec des personnes résidant dans le Pieux, des conseillers à la présidence du Pieux, des membres du Grand Conseil, des évêques et d'autres qui avaient acquis une expérience particulière dans l'administration de l'Église, leur posant des questions et écoutant leurs conseils. Au fur et à mesure qu'ils ont mené ces entrevues, les serviteurs du Seigneur ont considéré en prière chaque personne qui a eu un entretien et qui a été mentionnée. Enfin, ils sont parvenus à une décision provisoire sur le nouveau président de Pieux. Cette proposition a ensuite été soumise dans la prière au Seigneur. Si elle avait été confirmée, l'appel a été émis. Si elle n'avait pas été confirmée ou si elle avait été restreinte, cette proposition était mise de côté et le processus se poursuivait jusqu'à ce qu'une nouvelle proposition soit formée et que la révélation de confirmation soit reçue. Parfois, les révélations qui confirment et celles qui retiennent sont combinées. Par exemple, pendant mon service à BYU, on m'a invité à faire un discours devant une association nationale d'avocats. Parce que cela demandait de nombreux jours pour se préparer, c'était le genre d'invitation à prendre la parole que j'avais régulièrement refusée. Mais alors que je commençais à dicter une lettre déclinant cette invitation particulière, je me sentais retenu. J'ai fait une pause et reconsidéré mon action. J'ai alors réfléchi à la façon dont je pouvais accepter l'invitation, et comme j'en suis venu à la considérer dans cette lumière, j'ai ressenti l'assurance de confirmation de l'esprit, et je savais que c'était ce que je devais faire. Le discours qui en a résulté, une université privée se penche sur la réglementation gouvernementale, a ouvert la porte à une foule d'opportunités importantes. On m'a invité à répéter le même discours devant plusieurs autres groupes nationaux importants. Il a été publié dans Vital Speeches, dans une revue professionnelle et dans plusieurs autres périodiques et livres, à partir desquels il a été utilisé comme une déclaration principale de l'intérêt de l'université privée pour la liberté de la réglementation gouvernementale. Ce discours a conduit à la consultation de BYU par divers groupes religieux sur la relation appropriée entre le gouvernement et une université liée à une église. Ces consultations ont à leur tour contribué à la formation d'une organisation nationale d'universités et de collèges religieux qui a constitué une coalition importante pour s'opposer à la réglementation gouvernementale illégale ou imprudente. Je n'ai aucun doute, en repensant à l'événement, que cette invitation à prendre la parole que j'ai failli refuser était l'une de ces occasions où un acte apparemment insignifiant a fait une grande différence. Ce sont les moments où il est vital pour nous de recevoir la direction du Seigneur, et ce sont les moments où la révélation viendra nous aider si nous l'écoutons et y prêtons attention. Le huitième objectif ou type de révélation consiste dans ces cas où l'esprit incite une personne à agir. Ce n'est pas un cas où une personne propose de prendre une mesure particulière et l'esprit soit retient, soit confirme. C'est un cas où la révélation vient quand elle n'est pas recherchée et pousse à une action non proposée. Ce type de révélation est évidemment moins commun que les autres, mais sa rareté la rend d'autant plus significative. Un exemple scripturaire se trouve dans le premier livre de Néphi. Quand Néphi était à Jérusalem pour obtenir les précieuses annales du trésor, l'Esprit du Seigneur lui a ordonné de tuer Laban alors qu'il était ivre dans la rue. Cet acte était si loin du cœur de Néphi qu'il a reculé et a lutté contre l'Esprit. Mais il a été de nouveau ordonné de tuer Laban. Il a finalement suivi cette révélation. Les étudiants de l'histoire de l'Église se souviendront du récit de Wilford Woodruff, d'une impression qui lui est venue la nuit, lui disant d'éloigner sa calèche et ses mules d'un grand arbre. Il a fait, et sa famille et son bétail ont été sauvés lorsque l'arbre s'est écrasé au sol dans une tornade qui a frappé 30 minutes plus tard. En tant que jeune fille, ma grand-mère, Jessie Olsen Harris, a vécu une expérience similaire. Elle s'occupait d'enfants qui jouaient dans un lit de rivière sèche près de leur maison à Castle Dale, en Utah. Soudain, elle a entendu une voix qui l'a appelée par son nom et lui a demandé de sortir les enfants du lit de rivière et de monter sur la rive. C'était une journée claire, il n'y avait aucun signe de pluie. Elle ne voyait aucune raison de tenir compte de la voix et continuait à jouer. La voix lui a reparlé de toute urgence. Cette fois, elle a tenu compte de l'avertissement, rassemblant rapidement les enfants. Elle a entamé une course pour la berge. Juste au moment où ils l'ont atteinte, un énorme mur d'eau, provenant d'une rafale de nuages dans les montagnes à plusieurs kilomètres au-delà, a balayé le canyon et rugi à travers là où les enfants avaient joué. Hormis cette révélation énergique, elle et les enfants auraient été perdus. Pendant 9 ans, le professeur Marvin Hill et moi avons travaillé sur le livre « Carthage Conspiracy », qui concerne le procès en 1845 des assassins de Joseph Smith. Nous avions plusieurs sources différentes de procès-verbaux, certains portant le nom de leurs auteurs et d'autres non signés. Le procès-verbal le plus complet n'avait pas été signé, mais parce que nous les avions trouvés dans le bureau de l'historien de l'Église, nous étions sûrs qu'il s'agissait des procès-verbaux conservés par George Watt, le scribe officiel de l'Église, qui avait été envoyé pour enregistrer les délibérations du procès. Nous l'avons déclaré dans 7 bouillons de notre manuscrit et nous avons analysé toutes nos sources sur cette hypothèse. Finalement, le livre est achevé et en quelques semaines, le manuscrit final allait être envoyé à l'éditeur. Alors que j'étais assis dans mon bureau à BYU un samedi après-midi, je me suis senti poussé à parcourir une pile de livres et de brochures non examinées accumulées sur la table derrière mon bureau. Tout en bas de la pile de 50 ou 60 publications, j'ai trouvé un catalogue imprimé du contenu du Wilford C. Wood Museum que le professeur Lamar Barrett, l'auteur, m'avait envoyé un an et demi plus tôt. Alors que je feuilletais rapidement les pages de ce catalogue de manuscrits d'histoire de l'Église, mon regard est tombé sur une page décrivant le manuscrit des procès-verbaux que nous avions attribué à George Watt. Cette page de catalogue racontait comment Wilford Wood avait acheté l'original de cet ensemble de procès-verbaux dans l'Illinois et avait donné à l'Église une version dactylographiée, la même version que nous avions obtenue de l'historien de l'Église. Nous avons immédiatement visité le Wilford Wood Museum à Woods Cross, en Utah, et obtenu des informations supplémentaires qui nous ont permis de déterminer que les procès-verbaux que nous pensions être la source officielle de l'Église avaient été préparés par l'un des avocats de la défense. Avec cette connaissance, nous sommes retournés au bureau de l'historien de l'Église et avons pu localiser pour la première fois les procès-verbaux officiels et très authentiques de George Watt. Cette découverte nous a sauvés d'une grave erreur dans l'identification de l'une de nos sources majeures et nous a également permis d'enrichir le contenu de notre livre de manière significative. L'impression que j'ai reçue ce jour-là dans mon bureau était un exemple précieux de la façon dont le Seigneur nous aide dans nos justes activités professionnelles lorsque nous nous qualifions pour les impressions de son esprit. j'ai eu une autre expérience de choix avec de la révélation incitante quelques mois après avoir commencé mon service à BYU. En tant que président nouveau et inexpérimenté, j'avais beaucoup de problèmes à analyser et beaucoup de décisions à prendre. J'étais très dépendant du Seigneur. Un jour d'octobre, je suis monté en voiture à Provo Canyon pour réfléchir à un problème particulier. Bien que seul et sans interruption, je me suis retrouvé incapable de penser au problème à résoudre. Une autre question en suspens que je n'étais pas encore prêt à considérer continuait de se pousser dans mon esprit. Devrions-nous modifier le calendrier académique de BYU pour terminer le semestre d'automne avant Noël? Après 10 ou 15 minutes d'efforts infructueux pour exclure les pensées de ce sujet, j'ai finalement réalisé ce qui se passait. La question du calendrier ne m'a pas semblé opportune et je ne cherchais certainement aucune orientation à ce sujet, mais l'esprit essayait de communiquer avec moi à ce sujet. J'ai immédiatement porté toute mon attention sur cette question et j'ai commencé à enregistrer mes pensées sur un morceau de papier. En quelques minutes, j'avais enregistré les détails d'un calendrier de 3 semestres avec tous ses avantages puissants. En retournant sur le campus, je l'ai examiné avec mes collègues et je les ai trouvés enthousiastes. Quelques jours plus tard, le conseil d'administration a approuvé notre proposition du nouveau calendrier et nous avons publié ces dates à peine à temps pour qu'elles entrent en vigueur à l'automne 1972. Depuis ce temps, j'ai relu ces paroles du prophète Joseph Smith et réalisé que j'avais eu l'expérience qu'il a décrite. Je cite, « On peut profiter de l'esprit de révélation en en remarquant les premiers signes. Par exemple, lorsque vous ressentez l'intelligence pure se répandre en vous, elle peut vous donner des idées soudaines, et ainsi, en apprenant et comprenant l'Esprit de Dieu, vous pouvez progresser dans le principe de la révélation. » Fin de citation. J'ai maintenant décrit 8 objectifs ou types différents de révélation. 1. Témoigner. 2. Prophétiser. 3. Réconforter. 4. Édifier. 5. Informer. 6. Retenir. 7. Confirmer. Et 8. Inciter. Chacun de ces derniers se réfère à des révélations qui sont reçues. Avant de conclure, je suggérerai quelques idées sur les révélations qui ne sont pas reçues. Premièrement, nous devons comprendre ce que l'on peut appeler le principe de l'intendance dans la révélation. La maison de notre Père Céleste est une maison d'ordre, où ses serviteurs sont commandés à remplir l'office auquel ils sont désignés. Ce principe s'applique à la révélation. Seul le président de l'Église reçoit des révélations pour guider l'ensemble de l'Église. Seul le président de pieux reçoit des révélations pour guider spécifiquement le pieux. La personne qui reçoit des révélations pour la paroisse est l'évêque. Pour une famille, c'est les dirigeants de prêtrise au sein du foyer. Les dirigeants reçoivent des révélations pour leur propre intendance. Les individus peuvent recevoir des révélations pour être guidés dans leur vie personnelle. Mais quand une personne prétend recevoir une révélation pour une autre personne, en dehors de sa propre intendance, comme un membre de l'Église qui prétend avoir une révélation pour guider l'Église entière, une personne qui prétend avoir une révélation pour guider une autre personne sur laquelle elle n'a aucune autorité, président, selon l'ordre de l'Église, vous pouvez être sûr que de telles révélations ne viennent pas du Seigneur. Il y a les faux signaux. Satan est un grand trompeur et il est la source de certaines de ces fausses révélations. D'autres sont simplement imaginées. Si une révélation est en dehors des limites de l'intendance, vous savez qu'elle ne vient pas du Seigneur et vous n'êtes pas lié par elle. J'ai entendu parler de cas où un jeune homme avait dit à une jeune femme qu'elle devait l'épouser parce qu'il avait reçu une révélation qu'elle devait être sa compagne éternelle. Si c'est une vraie révélation, elle sera confirmée directement à la jeune femme si elle cherche à savoir. En attendant, elle n'a aucune obligation d'y obéir. Elle doit rechercher l'inspiration par elle-même et prendre sa propre décision. L'homme peut recevoir la révélation pour guider ses propres actes, mais il n'est pas convenable qu'il reçoive une révélation plus dirigée à la jeune femme. Elle est en dehors de son intendance. Qu'en est-il des moments où nous cherchons la révélation et ne la recevons pas? Nous ne recevons pas toujours d'inspiration ou de révélation lorsque nous la demandons. Parfois, nous sommes retardés dans la réception de la révélation, et parfois nous sommes laissés à notre propre jugement. On ne peut pas forcer les choses spirituelles. Il doit en être ainsi. Le but de notre vie d'obtenir de l'expérience et de développer la foi serait frustré si notre Père Céleste nous dirigeait dans chaque acte, même dans chaque acte important. Nous devons prendre des décisions et en expérimenter les conséquences afin de développer l'autonomie et la foi. Même dans les décisions que nous pensons très importantes, nous ne recevons parfois aucune réponse à nos prières. Cela ne signifie pas que nos prières n'ont pas été entendues. Cela signifie seulement que nous avons prié pour une décision que, pour une raison ou une autre, nous devrions prendre sans conseil par la révélation. Peut-être avons-nous demandé des conseils pour choisir entre des alternatives tout aussi acceptables ou tout aussi inacceptables. À mon avis, il n'y a pas de bien ou de mal à chaque question. À de nombreuses questions, il n'y a que deux mauvaises réponses ou deux bonnes réponses. Ainsi, une personne qui recherche des conseils sur laquelle des deux manières différentes il devrait poursuivre pour se venger d'une personne qui lui a fait du tort n'est pas susceptible de recevoir une révélation. De même, une personne qui recherche des conseils sur un choix qu'elle n'aura jamais à faire parce qu'un événement futur interviendra, comme une troisième alternative qui est clairement préférable. À une occasion, mon épouse et moi avons prié sincèrement pour obtenir des conseils sur une décision qui semblait très importante. Aucune réponse n'est venue. Nous avons été laissés pour procéder à notre meilleur jugement. Nous ne pouvions imaginer pourquoi le Seigneur ne nous avait pas aidés avec une impression de confirmation ou de retenue. Mais il n'a pas fallu longtemps avant d'apprendre que nous n'avions pas à prendre de décision sur cette question parce que quelque chose d'autre s'est produit qui a rendu une décision inutile. Le Seigneur ne nous guiderait pas dans une sélection qui ne ferait aucune différence. Aucune réponse ne viendra probablement à une personne qui cherche des conseils dans le choix entre deux alternatives qui sont également acceptables pour le Seigneur. Ainsi, il y a des moments où nous pouvons servir productivement dans deux domaines différents du travail. L'une ou l'autre réponse est juste. De même, l'Esprit du Seigneur n'est pas susceptible de nous donner des révélations sur des questions anodines. Une fois, j'ai entendu une jeune femme en réunion de témoignage louer la spiritualité de son mari, indiquant qu'il soumettait toutes les questions au Seigneur. Elle a raconté comment il l'accompagnait pour faire les courses et ne voulait même pas choisir entre différentes marques de légumes en conserve sans faire de sa sélection une question de prière. Cela me paraît inapproprié. Je crois que le Seigneur s'attend à ce que nous utilisions l'intelligence et l'expérience qu'il nous a données pour faire ce genre de choix. Lorsqu'un membre a demandé au prophète Joseph Smith de lui donner son avis sur une question particulière, le prophète a déclaré « C'est une chose très sérieuse que d'interroger Dieu ou de venir en sa présence. Et nous craignons de l'interroger sur des sujets de peu d'importance. » Bien sûr, nous ne sommes pas toujours en mesure de juger ce qui est anodin. Si une question semble avoir peu ou pas de conséquences, nous pouvons procéder sur la base de notre propre jugement. Si le choix est important pour des raisons qui nous sont inconnues, comme l'invitation à parler que j'ai mentionnée plus tôt, ou même un choix entre deux boîtes de légumes lorsque l'une contient un poison caché, le Seigneur interviendra et nous guidera. Quand nous sommes face à un choix décisif, évident ou non, et que nous vivons en harmonie avec l'Esprit et demandons à être guidés par lui, nous pouvons être sûrs que nous recevrons les directives dont nous avons besoin pour atteindre notre but. Le Seigneur ne nous laissera pas sans aide quand un choix est important pour notre bien-être éternel. Je sais que Dieu vit et que la révélation à ses enfants est une réalité. Je prie pour que nous soyons dignes de grandir dans ce principe de révélation. Je rends mon témoignage de la véracité de l'Évangile et prie pour les bénédictions de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.